France Culture.
Mais tout de suite, on retrouve le journal de la rédaction. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Réunion de crise, aujourd'hui à Paris, une dizaine de dirigeants de l'UE, mais aussi de l'OTAN se réunissent avec l'espoir de définir une réponse commune pour la sécurité du vieux continent et en particulier face au risque d'être exclu des futures négociations de paix pour l'Ukraine. Dans le même temps, des pourparlers entre hauts responsables russes et américains sont prévus demain en Arabie Saoudite avant un éventuel sommet Poutine-Trump. On se rendra par ailleurs en Corée du Sud où l'accès à l'intelligence artificielle DeepSeek est bloqué jusqu'à nouvel ordre. À suivre également l'ouverture ce matin à Paris du procès de Medine Mouche et quatre autres djihadistes, tous accusés d'avoir séquestré quatre journalistes français en Syrie, c'était en 2013. Nous serons direct de la cour d'assises spéciale de Paris. Enfin, ce jour de rentrée des classes en Nouvelle-Calédonie, on se demandera jusqu'à quel point la crise des derniers mois a-t-elle accru les inégalités et quel rôle les politiques scolaires ont-elles dans le processus de décolonisation. L'heure est grave et le sommet d'urgence baptisé comme tel est organisé aujourd'hui même à Paris par les Européens pour discuter du sort de l'Ukraine témoigne à lui seul de ce vent de panique qui souffle à présent sur le vieux continent face à l'hypothèse de voir Donald Trump et Vladimir Poutine négocier seul à seul pour entériner un nouvel ordre mondial. Car il n'est plus seulement question d'une possible négociation dans le dos des Européens, non, tout le week-end lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Le vice-président américain a mené une attaque plus frontale encore sur les valeurs libérales elles-mêmes, en parlant pour l'Europe d'ennemis intérieurs plus redoutables encore que la Russie ou la Chine. Jay Vance a provoqué un émoi qui a presque relégué au second plan l'appel téléphonique deux jours plus tôt entre le locataire de la Maison-Blanche et le maître du Kremlin. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Plusieurs chefs de gouvernement européens ont donc prévu de se réunir aujourd'hui à Paris à l'initiative du président Emmanuel Macron avec l'espoir de définir une réponse commune pour renforcer la sécurité du vieux continent. Quelles sont, Nathanaël, les pistes de travail possibles?
Alors, la première chose à dire quand même et à expliquer, c'est de préciser dans quel état d'esprit se fait ce rassemblement. On ne parle pas de sommet, mais d'une réunion informelle avec une nuance dans la définition. Vous savez, le sommet, c'est une réunion internationale, médiatiquement exposée, à la sécurité renforcée, avec un programme et un ordre du jour bien défini. Alors que la réunion informelle est beaucoup plus souple, tant sur le plan de la sécurité, celle du jour se tiendra à l'Élysée, que sur les thèmes de discussion. Ici, pas d'ordre du jour. Les participants peuvent aborder les sujets qu'ils souhaitent et sans pression, car pas de communiqué final obligatoire. Ce qui, dans le cas présent, peut être appréciable, car rien ne dit que les visions des invités présents se rejoignent sur tous les thèmes qui seront abordés. Un exemple, Emmanuel Macron n'est pas opposé à l'envoi de troupes au sol en Ukraine, alors que Berlin a estimé ce matin encore prématuré les discussions sur l'envoi de troupes en Ukraine. Deuxième chose, de quoi donc vont parler les invités du jour? Et là, trois sujets devraient être abordés. Ils vont parler de la situation en Ukraine, on l'a évoqué, d'autant que les choses se précipitent avec le sommet prévu demain en Arabie Saoudite entre Russes et Américains, mais sans les Européens. Il s'agira donc de trouver une parade européenne et de tenter d'exister. Ils vont parler de la sécurité en Europe et comment s'organiser pour avoir une industrie prête à un effort de guerre, pour avoir des programmes d'armement communs, pour avoir enfin un début d'armée européenne. Ils vont parler enfin de la réponse à apporter aux Américains, notamment après la séquence qui s'est déroulée à Munich, vous l'avez évoqué, où on a vu le vice-président américain venir donner des leçons aux Européens sur ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent penser.
Merci Nathanaël Charbonnier. Alors, la trahison de Kiev par Washington a non seulement mis les Européens au pied du mur, coupé l'herbe sous le pied des alliés de l'OTAN, mais aussi enhardi Vladimir Poutine. Les prochains jours diront si le grand organisateur de l'invasion de l'Ukraine est sérieux ou non dans son intention de mettre fin à la guerre et surtout à quelles conditions. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Moscou, ce matin le Kremlin a confirmé que le chef de la diplomatie russe rencontrerait demain en Arabie Saoudite un ou plusieurs représentants américains. L'occasion, on l'imagine, de préparer un futur tête-à-tête Poutine-Trump, peut-être même dès la fin du mois.
Oui, après les coups de fil et les échanges d'amabilité, on va entrer dans le dur, hein, en quelque sorte, à Riyad demain. Le Kremlin confirme que Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, et le conseiller présidentiel Yuri Ushakov s'envolent pour Riyad donc aujourd'hui, où ils devraient rencontrer demain donc le secrétaire d'État Marco Rubio, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump Mike Waltz et l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff. En soi, c'est déjà un événement. Une rencontre de ce niveau entre Russes et Américains n'a pas eu lieu depuis le début de la guerre, à l'exception d'une brève entrevue Lavrov-Blinken en marge du G20 en 2023 qui n'avait débouché sur rien. C'est aussi le signe que le Kremlin prend les choses au sérieux. Lorsqu'il y avait eu des discussions à Istanbul au début de la guerre, Moscou avait envoyé l'ancien ministre de la Culture, Vladimir Medinsky, qui est un second couteau de la politique russe. Là, la mission de la délégation russe sera de baliser le terrain pour une rencontre au sommet Trump-Poutine, dont on dit qu'elle pourrait arriver très vite, dès la fin du mois, à Riyad probablement, toujours. Et puis on voit que Moscou accélère clairement le processus, ou cherche à le faire, en tout cas en excluant toujours les Européens. Je ne vois pas ce qu'il viendrait faire autour de la table des négociations, a dit tout à l'heure Sergueï Lavrov. En restant inflexible également sur ses positions, il ne faut pas envisager de concessions territoriales, a également dit le chef de la diplomatie russe, et en étant toujours aussi flou sur la place de l'Ukraine dans ce dialogue qui, pour l'instant, ici à Moscou, se conçoit exclusivement entre Russes et Américains.
Merci Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Alors qu'est-ce qui se cache véritablement derrière le tintamarre de l'administration américaine et des déclarations martiales fracassantes de son chef Donald Trump? Quel est le plan, qu'il s'agisse de l'Ukraine comme Gaza d'ailleurs? Existe-t-il ne serait-ce qu'une ébauche de scénarios censés jeter les bases d'une paix durable? À bien y regarder, le tableau semble surtout proche du chaos le plus absolu, s'agissant cette fois-ci de la situation au Proche-Orient. Après un nouvel échange ce week-end d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens qui, pas plus que le précédent, n'aura permis de rapprocher les deux ennemis, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le secrétaire d'État américain Marco Rubio, ont surtout cherché à afficher un front uni en menaçant d'ouvrir rien de moins que les portes de l'enfer au Hamas. Depuis ce matin, le cabinet de sécurité israélien est réuni pour discuter de la deuxième phase de l'accord de trêve. Quant au sommet arabe pour répondre au plan Trump sur Gaza, il a été décalé à vendredi.
C'est la deuxième ville à tomber aux mains des rebelles dans une région riche en minerais.
Oui, après Goma, le mois dernier, les troupes antigouvernementales du M23 ont pris le contrôle de Bukavu, chef-lieu de la province sud, Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, soit une expansion de territoire sans précédent pour les rebelles soutenus par l'armée du voisin rwandais. Un coup dur forcément pour le gouvernement du président congolais Tshisekedi. Cette incursion a d'ailleurs provoqué une vive réaction de la communauté internationale qui considère cet acte comme une violation flagrante de la souveraineté de la RDC et un danger pour la stabilité régionale. Après avoir stupéfié l'industrie de la tech par sa capacité à égaler ses concurrents américains, voilà que le lancement tonitruant le mois dernier du robot conversationnel de la start-up chinoise DeepSeek inquiète, certains évoquant des menaces pour la sécurité nationale ou de potentielles fuites d'informations sensibles. L'Italie est le premier pays à avoir ouvert une enquête sur le chatbot acquis. Elle a interdit de traiter les données d'utilisateurs italiens, puis ce fut au tour des autorités taïwanaises d'interdire à leurs fonctionnaires d'utiliser les applications de la start-up chinoise. La décision a ensuite été suivie quelques jours plus tard par l'Australie, et ce matin, c'est la Corée du Sud qui a annoncé le retrait de DeepSeek, donc des boutiques d'applications locales. Les précisions depuis Séoul de Célio Fioretti.
Il est désormais impossible de télécharger l'application DeepSeek en Corée du Sud. Il y a une semaine déjà, le gouvernement avait restreint l'accès à la plateforme sur les ordinateurs de ses fonctionnaires. L'agence de renseignement sud-coréenne avait alerté sur les risques posés par la collecte des données par l'entreprise chinoise. Désormais, c'est la Commission de protection des données personnelles qui a décidé de bloquer tout nouveau téléchargement de l'application DeepSeek sur téléphone. Les utilisateurs précédents peuvent toujours continuer à se servir de l'intelligence artificielle à leur risque, précise la commission, une interdiction qui met en garde l'entreprise chinoise qui a décidé de coopérer avec les autorités sud-coréennes pour respecter la réglementation du pays du matin calme. Une adaptation aux lois locales qui pourrait prendre du temps, prévient la commission, qui souhaite pour l'instant enquêter pleinement sur la collecte des données personnelles à l'origine de sa décision. L'objectif est de savoir quelles sont les données collectées en Corée du Sud et pour quelle utilisation par l'entreprise.
Ils sont quatre journalistes et quatre ex-otages du groupe État islamique en Syrie.
Oui, enlevés à 10 jours d'intervalle, c'était en juin 2013. Didier François, Édouard Elias, puis Nicolas Hénin et Pierre Torres ont vécu 10 mois de supplice entre privation de nourriture et simulacre d'exécution, des violences physiques et psychologiques insoutenables que les quatre journalistes vont donc devoir revivre dans la salle d'audience d'un tribunal. Depuis ce matin, devant la cour d'assises spéciale de Paris, tous font face à leurs tortionnaires présumés, dont le premier d'entre eux, Mehdi Nemmouch, déjà condamné en 2019 à la réclusion à perpétuité pour l'attentat au musée juif de Bruxelles. Florence Thurn, bonjour.
Bonjour.
Vous avez assisté, Florence, ce matin donc à l'ouverture du procès.
Oui, et à peine installé dans le box des accusés, Medine Mouche, 39 ans, cheveux noirs et courts, visage émacié, rasé de près, a tout de suite souhaité faire une déclaration préalable, lui qui a toujours gardé le silence durant les longues années d'instruction de ce dossier. On verra ça plus tard, répond le président. Medine Mouche poursuit, ton précipité, mes voix affirmées, je n'ai jamais été le geôlier des otages occidentaux, ni d'aucun autre otage. En Syrie, j'ai toujours eu la même fonction, un soldat sur le front face aux forces de Bachar al-Assad. La première fois que j'ai vu Nicolas Hénin, assure-t-il, c'était à la cour d'assises de Bruxelles et également à la télévision. Nicolas Hénin qui a pris place dans la salle face à Medine Mouche dans l'espace réservé aux partis civils. Il l'avait identifié comme étant l'un de ses geôliers et il est attendu pour livrer un premier témoignage mercredi, tout comme les trois autres journalistes français, Didier François, Édouard Elias et Pierre Torres. Mais au total, ce sont 25 otages qui ont été enlevés, séquestrés, 20 hommes et 5 femmes, journalistes et humanitaires, américains, espagnols, belges, danois, russes, entre 2013 et 2014, rappelle l'avocat général, et certains ne sont pas revenus sauvagement assassinés. C'est le cas des Britanniques Peter Kassig et David Haines, tous les deux décapités par leurs ravisseurs. Les vidéos de leur exécution diffusées sur Internet par le groupe État islamique, dont deux anciens dirigeants devaient également figurer dans le box des accusés, notamment Oussama Attar, l'organisateur des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a priori considéré comme mort. Il sera tout de même jugé par défaut dans ce procès.
Merci Florence Sturm, en direct de la cour d'assises spéciale de Paris avec Mickaël Simon pour les moyens techniques.
Après 2 mois de vacances d'été, quelques 60 000 élèves ont fait leur retour à l'école ce matin en Nouvelle-Calédonie.
Et après les émeutes qui ont éclaté au printemps dernier, les conséquences désastreuses sur la situation économique de l'île, l'année s'annonce déjà extrêmement difficile. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Benjamin Néa, doctorant à l'unité de recherche migration et société, spécialiste du rôle des politiques scolaires dans le processus de décolonisation. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Jusqu'à quel point cette rentrée scolaire se fait-elle donc dans des conditions dégradées par rapport aux années précédentes ?
Jusqu'à un point jamais vu jusqu'à présent en fait, et c'est dû à la crise économique que traversent les collectivités, c'est-à-dire qu'en contexte de restrictions budgétaires drastiques, on a choisi de réduire dans les transports qui sont plus pris en charge par les collectivités, les prix des cantines augmentent, le périscolaire aussi, et donc ça fait de plus en plus de frais qui revient à la charge des parents pour pouvoir scolariser leurs enfants en fait, tout simplement. Donc ouais, les conditions sont particulièrement dégradées. Il y a aussi des établissements qui ont été détruits depuis les émeutes et qui n'ont pas été reconstruits. Des déplacements d'élèves, environ 700 élèves qui ont changé d'école et plus de 1000 élèves qui sont absents.
On imagine donc, que ces circonstances donc particulières vont nécessairement renforcer des inégalités qui préexistaient dans le système scolaire calédonien. En l'occurrence, de quelles inégalités parle-t-on exactement ?
Oui, on peut se douter qu'elles vont s'aggraver, ces inégalités. Ces inégalités, elles étaient déjà présentes hein, avant cette crise financière, économique. En 2019, il y avait 54% des Européens en Nouvelle-Calédonie qui ont un diplôme supérieur au bac, contre 8% parmi les Kanaks et 9% chez les Océaniens. Voilà, il y a des inégalités très fortes. 34% des Kanaks n'ont pas de diplôme, contre 18% des non-Kanaks qui sont sans diplôme. Donc voilà, il y a des inégalités qui étaient déjà très fortes avant, même si on faisait tout pour les réduire. Et on peut craindre qu'elles risquent de s'aggraver, oui.
La réduction de ces inégalités scolaires est une problématique qui est identifiée de longue date, évidemment, déjà en Nouvelle-Calédonie. Elle a notamment été abordée par les dispositions de l'accord de Nouméa, c'était en 98. Elle était aussi au cœur des revendications indépendantistes dès les années 70. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel rôle a joué la question de l'école donc dans les revendications politiques ?
Oui, l'école, elle a fait partie de la revendication indépendantiste, en fait, depuis les années 70, où on constate des inégalités qui sont très très fortes. Dans les années 80, pour 1000 enfants kanaks scolarisés en CP, il y en a 4 qui obtiennent le bac. Bon, voilà, c'est des chiffres très forts et c'était il y a longtemps, ça a changé depuis. Mais ça fait partie de la revendication et ça a été compris dans l'accord de Nouméa pour régler le contentieux colonial, en fait. Et donc, il y a eu un transfert de compétences en matière de programme qui a été fait dans le primaire, dans le secondaire. Le supérieur reste partagé avec la France. Et ces inégalités, on a essayé de lutter contre en construisant des établissements, en massifiant l'accès à l'enseignement supérieur. Même si elles ont persisté, il y a eu quand même des changements dans l'école en Nouvelle-Calédonie. L'accès au diplôme s'est quand même massifié, même si des inégalités persistent, se transforment. Quand on regarde la répartition des types de diplômes, des types de bacs, il y a des inégalités historiques qui se maintiennent.
L'un des choix de politique publique a notamment été de créer des dispositifs pour permettre aux Calédoniens d'aller étudier en dehors de l'archipel, afin de créer donc des élites locales qui pourraient à leur retour assurer les postes à responsabilité occupés jusque-là par des personnes venues de l'extérieur. Vous qui étudiez précisément cette question donc des parcours migratoires étudiants en lien avec le processus de décolonisation, est-ce que l'on sait dans quelle mesure les étudiants qui en bénéficient donc reviennent effectivement en Nouvelle-Calédonie après leurs études?
Bon, alors on ne sait pas exactement combien reviennent. Il n'y a pas encore de statistiques qui sont produites sur le devenir des diplômés, des sortants d'études, comme on peut trouver aussi dans les universités françaises de l'Hexagone. Et c'est pas encore le cas chez nous, donc on ne sait pas combien reviennent, mais effectivement le départ vers la France pour étudier a été pensé comme un moyen de décoloniser à travers l'acquisition de compétences et donc de gestion par nous-mêmes de responsabilité, de l'accès aux postes à responsabilité. Malgré tout, faut dire aussi qu'il y en a, il y a beaucoup d'étudiants qui partent d'eux-mêmes en dehors de ces dispositifs-là. Ça représente beaucoup. Il y a environ 40% des étudiants qui sont inscrits en dehors de Nouvelle-Calédonie. Et donc oui, on ne sait pas pour le retour. Et là, avec la crise, on se demande aussi, enfin avec la crise et les conséquences économiques qu'il y a suite aux émeutes, ça va forcément impacter à la fois les départs. Peut-être que certains vont être repoussés et probablement les retours. Mais ça, je peux pas le détailler pour l'instant.
On terminera par ces mots. Merci Benjamin Néa, doctorant, je le rappelle, à l'unité de recherche migration et société, d'avoir répondu à notre invitation en direct depuis Nouméa. Donc, et puis merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Une centaine d'étudiants et de médecins hommes appellent à un sursaut face aux violences sexistes et sexuelles qui gangrènent la communauté médicale.
Oui, dans une tribune publiée ce matin par le journal Le Monde, ils s'engagent à, je cite, briser l'omerta et à réagir face à une culture sexiste, machiste et patriarcale qui imprègne l'ensemble du milieu médical. Et surtout, ils dénoncent donc le silence des hommes face à ces violences. Marie-Aimée Copleutre, bonjour.
Bonjour.
Cette tribune arrive en réalité 3 mois après une enquête de l'Ordre des médecins qui révélait que 54% des 21 000 médecins interrogés avaient eu connaissance de violences sexuelles ou sexistes commises par un autre médecin.
En novembre, l'Ordre des médecins prouvait enfin ce que dénonçaient depuis plusieurs années des associations féministes et certains syndicats de soignants. Mais depuis, silence du côté de la hiérarchie de l'hôpital. Encadrants, chefs de service et professeurs de médecine étaient restés discrets, pas de prise de position. Alors le soutien aujourd'hui de plus de 100 chefs de service des hommes de grands hôpitaux parisiens, marseillais ou encore strasbourgeois est bien perçu par le monde médical militant. Marie-France Oliéric est gynécologue, présidente de l'association Donner des ailes, qui lutte pour l'égalité femmes et hommes dans le soin.
C'était une super bonne nouvelle du lundi matin. J'ai trouvé ça très bien. Je les ai trouvés courageux de s'associer au combat qui est le nôtre. Je ne pense pas qu'il n'y ait que les seules femmes qui puissent porter ça. C'est bien que les hommes coportent cette dénonciation. Donc je trouve que c'est une très bonne chose.
Dans la ligne de mire des signataires, il y a également la culture carabine, très présente dans le milieu médical, symbolisée par des blagues sexistes, des surnoms discriminants ou encore des fresques obscènes qui ornent les salles de garde. Marie-France Oliéric voit dans ce refus de cette culture dégradante une avancée de ces pères masculins.
Finalement, ils ont été imprégnés de cette culture carabine. C'est appeler l'étudiante ma biche, c'est faire une blague sexiste. Et finalement, probablement, de notre côté, de même pas se rendre compte que c'est anormal, en fait.
À côté de ces prises de position, les soignantes exigent des mesures concrètes, notamment interdire définitivement et systématiquement l'exercice de la médecine aux soignants condamnés pénalement pour des crimes sexuels, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui.
Merci Marie-Aimée Copleutre. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec du soleil sur la majeure partie du territoire, malgré la présence encore de nombreux nuages sur la façade atlantique. Quant aux températures, elles seront comprises entre 4 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.